C'est en 2021 qu'a lieu la signature de la Charte des droits des personnes sans-abri. Quelques mois plus tard, et avec quelques questions dans nos valises, le rendez-vous est pris avec le maire de Lyon à l'hôtel de ville. État des lieux, avancées concrètes ou non, point de blocage, vaste chantier qui méritait bien d'entendre le signataire d'une charte encore très peu connue et diffusée.
Alors, allez, allons-y.
Bon.
En résumé, donc le projet des streets, on est donc nous anciens de la rue, donc on a l'avantage malheureusement de connaître un peu les vicissitudes de la rue. Donc c'est en partie la raison pour laquelle donc la Fondation Pépère nous sollicite en tant que street, avec un axe essentiel dans un premier temps, c'est d'aller à la rencontre des structures qui œuvrent pour les personnes, on va dire, pas nécessairement SDF, mais en grande précarité. Donc ça c'est le premier axe qu'on a commencé à vraiment à développer. Et le deuxième axe, c'est d'aller à la rencontre, là, effectivement, des gens précaires, pour voir quels sont à eux leurs problèmes, leurs problématiques. Quelles solutions ils ont trouvées, quels sont les obstacles, etc. Et c'est là où on va rejoindre la charte. C'est aussi pour ça qu'on vous avait sollicité, pour faire un point, en fait, alors très court, parce qu'en une demi-heure, on ne va pas pouvoir tout aborder. On a retenu, nous, par rapport à la charte, 3-4 points, puisque là, que ce soit Franck, Touatia ou David, ont des exemples concrets sur, on va dire, une mauvaise application, une non-application de la charte. Et puis, on s'est également rendu compte que la charte n'était pas diffusée, en fait. Les gens en situation précaire, même à la rue, ne connaissaient pas, savaient pas qu'il y avait une charte.
Tout à fait, oui.
C'est important. On en a parlé, nous, la dernière réunion avec la Fondation Abbé Pierre, pour savoir comment le faire savoir, en fait.
Vous parlez des personnes qui sont concernées par la charte, en tant que, j'ai envie de dire, usagers, cibles, alors qu'en interne, dans les services et avec nos partenaires, il y a eu un travail de partage.
Tous les partenaires sociaux ne connaissent pas l'existence de la charte.
Mais quand vous dites partenaires sociaux, c'est-à-dire les
travailleurs sociaux. Voilà.
Oui. Alors, on n'a peut-être pas encore été au bout de l'ensemble des formations, mais ça fait partie des engagements qu'on a pris. Et j'ai déjà ces engagements, mais c'est une nécessité parce que, au travers de la charte, on n'est pas simplement sur l'énumération et l'engagement à faire respecter des droits pour que les personnes puissent justement faire valoir et tout ça. Mais on est aussi dans une démarche qui vise à faire évoluer les pratiques des travailleurs sociaux, des accompagnants, des aidants, enfin de toutes les personnes qui peuvent intervenir à un moment dans le parcours de vie et qui peuvent être, pour certains, dans des approches que je vais qualifier plutôt de charitables, alors que c'est pas ça, on est dans l'exercice des droits. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. C'est ce qu'il y a de fondamental dans la charte des droits des personnes sans-abri, pour moi. On est vraiment dans une logique d'accès aux droits, ce qui doit nous amener aussi à changer le regard sur les personnes qui sont concernées.
Oui, tout à fait. Par rapport justement à la charte, comme je disais, il y a 14 articles, mais malheureusement, on n'aura pas le temps de tout lister.
De tous les commentaires.
Voilà. En fait, on a seulement fait un éclairage sur trois articles, en fait, au niveau d'une personne qui veut se faire domicilier, par exemple. Quand on va dans une mairie de Lyon et qu'on demande à avoir une domiciliation, une des questions bloquantes, c'est le fait qu'on nous demande un justificatif de domicile.
Oui, pour les 100 domiciles fixes, les SDF. Voilà,
il faut justifier sa situation de quelqu'un. SDF. Donc, il faut un témoin qui justifie.
Donc, on a recours, la plupart des gens, pour avoir ça. Donc, c'est de faire faire des fausses déclarations.
Non, tu ne donnes rien.
Ouais. Donc, c'est de faire faire des... Comme malheureusement, tu as eu le cas, où elle a demandé à un ami de faire une attestation comme quoi il était hébergé. La personne à la mairie l'a regardé comme ça entre documents en disant « Mais vous dormez vraiment là-bas ?» Elle a été honnête, elle a dit non.
Ils m'ont fait.
Ils l'ont fait. Ouais. Parce qu'effectivement, c'est un point de blocage. Il y a un déroulé, on pose des questions.
Tous les CCAS, ils ont le certificat d'hébergement à remplir par la personne qui les héberge. Je dis « Madame, je dors dehors, personne ne m'héberge. »
Il y a un petit souci.
Une fois, j'ai payé 50 euros. La personne qui me l'a fait, tata. Et une autre fois, tata, une autre personne, je l'ai fait. Puis je suis allé. Dites-moi, vous dormez chez la personne.
Je le note parce que c'est dont je n'avais pas connaissance. Et qui me paraît effectivement.
Et ils nous donnent.
On parle d'exercice des droits, c'est pas uniquement, encore une fois, une déclaration, même si la charte, c'est avant tout une déclaration. Mais il faut aller voir après, dans le détail, dans comment tout se met en place.
Voilà. Mais il n'y a pas de domiciliation, il n'y a pas de déclaration d'impôt, on ne peut pas faire une demande de logement, on ne peut pas avoir l'assurance maladie, on ne peut pas faire une demande à la préfecture. On ne peut rien faire, ça bloque.
C'est surtout ça le point de blocage, c'est-à-dire que la personne qui vient, qui est là, on parle du SDF, la personne, ben, je voudrais me faire domicilier pour pouvoir... Ben, justement,
au point de vue administratif, on ne peut rien faire si on n'a pas de domiciliation. Je dis, mais madame, ce n'est pas recevoir des cartes postales, c'est pour la...
Bien sûr, bien sûr.
Pour un titre.
Non, aller chercher. Ouais. Ben, on ment, on paye.
De mémoire, hein, on a 3 500 domiciliations qui sont faites par le CCAS. Mm-hmm. Donc, je suis étonné hein, qu'il y ait ce genre de problématique. Donc, enfin, je l'ai bien noté là pour que on voit après, ensemble avec Rodolphe, comment régler ça, pour savoir si c'est effectivement un truc un peu systématique qui est bloquant pour plein de situations, ou si c'est ici et là, parce que ça peut être aussi le cas, certains travailleurs sociaux moins informés, moins bien formés, qui pourraient éventuellement avoir...
Ils donnent le formulaire du certificat d'hébergement, et pour le restaurant du cœur, et pour Secours Populaire, pour avoir un panier, il faut la domiciliation.
Mmh. Bien sûr.
Donc, ça, et s'il n'y a pas d'endroit, bon, ben, les gens ils font comme moi, et ils payent quelqu'un, ou bien... Il y a quelqu'un qui fait ou bien...
Mais normalement, le CCAS réalise des domiciliations, justement,
pour les permettre CCAS.
Pour permettre ensuite l'engagement de toutes les démarches qui peuvent aller de l'inscription à l'école pour les enfants, c'est les enfants, en passant par
l'établissement de pièces d'identité.
Et on reçoit notre courrier administratif chez eux.
Exactement.
Mais il faut... Le certificat d'hébergement. Et le fournisseur, le certificat d'hébergement.
C'est à savoir si c'est un acte isolé de certaines mairies ou si c'est généralisé sur toutes les mairies.
Tout à fait.
C'est une loi ou un règlement, je ne sais pas.
Vous pouvez intervenir pour que ça ne soit plus un blocage, pour que voilà, qu'il n'y ait pas en plus derrière des problèmes de fait demander des attestations qui sont pseudo-vraies, etc. Donc,
Sachant que c'est déjà l'intérêt, je trouve aussi, encore une fois, d'énoncer des droits pour les personnes sans abri, c'est aussi pour dire que ces droits doivent être réels, matérialisés, et ils ne doivent pas donner lieu à une forme de discrimination. Ça ne doit pas être plus compliqué du fait de la situation de sans abri. On doit faciliter et trouver les mécanismes pour que ça puisse pour que les droits puissent être exercés comme... Des droits.
Alors, sachant qu'il y en a pour certains, donc l'accès au numérique est difficile, la compréhension des documents, etc., c'est aussi un problème, effectivement.
Et moi, je témoigne que je suis sur Lyon depuis 10 ans, et depuis 10 ans, c'est toujours pareil. Ça a toujours existé.
Qui veut du café ?
Moi, merci, c'est gentil.
Volontiers.
Moi aussi, tiens.
Donc, 3.
Alors, ça, c'était un premier point que vous vouliez
soulever. Voilà, c'était en fait pour faire un éclairage sur le respect des procédures. Non, je ne sais plus, en fait.
Pour la personne là, qui s'est fait...
Ce n'est pas sur la libre circulation des gens de la rue, mais sur, sur les personnes qui, justement, ont tendance à vouloir s'installer facilement. C'est vrai que, par le passé, j'ai constaté que la police municipale était... bien souvent sollicité, alors que ça reste quand même des personnes qui cherchent un abri temporaire. Et faire appel à la municipale, je suis pas sûr que ce soit très délicat. Enfin, donc après, moi, c'est vrai que j'ai vu des personnes, des particuliers, certes, ils ont beau être propriétaires de leur logement, mais je sais pas si c'est vraiment légitime d'appeler la municipale parce qu'ils ont cherché un abri temporaire sous un porche ou autre. Après, je ne sais pas, c'est... Ça m'a juste un peu interloqué.
Si je peux permettre, c'est juste pour resituer, en fait, la personne dormait à l'aplomb d'une résidence sous un porche. Donc, il y a le propriétaire qui arrive le soir, c'est 23h, elle a vu la personne dormir, elle a appelé la police municipale, qui ont mis... En fait, la police municipale a expliqué, donc la personne qui dormait dehors, qu'à l'aplomb de la maison, sous l'arche, il était sur le domaine privé. Donc, il pleuvait ce jour-là, on a demandé à la personne de se décaler, d'aller dormir sur le trottoir sous la pluie. Ouais. Donc, c'était un peu... Un peu dur, quoi. Donc ça fait partie des points où effectivement...
Et il y a un des articles de mémoire qui est sur le droit au repos.
Oui.
Ah, tout à fait.
Donc en plus, moi, à titre personnel, je pense que la police municipale, je pense que la nuit, parce que on a malheureusement vécu Lyon la nuit, On sait très bien qu'ils sont appelés à des missions plus importantes que de venir.
Venir déloger.
Voilà, déloger une personne, surtout pour une histoire d'un mètre ou deux.
Ouais, c'est.
Donc c'est un peu.
Voilà. Est-ce que ce que vous dites là, mais peut-être en lumière, on va investiguer hein, la nécessité aussi. On parlait de travailleurs sociaux tout à l'heure, qui ont besoin d'être formés, former d'autres intervenants. Dans l'espace public.
Oui, on sait notamment que le SAMU social travaille avec les pompiers, qui eux aussi, je dérive un peu des points qu'on avait prévus, eux aussi ont des soucis à intervenir dès lors que c'est un SDF qui les appelle, parce qu'ils ont l'image du mec aviné qui va juste les emmerder dans leur boulot. Alors parfois, il y a quand même un vrai problème aussi. Quoi.
Oui,
tout à fait. Et je sais que le SAMU social travaille avec des SDF pour les présenter aux pompiers pendant leur formation, pour expliquer que...
Vous avez eu un café, madame ?
Oui, j'aimerais bien.
Eh bien, hop, je vous en sers un aussi.
Hop. Toi, t'as bien vu, t'aurais été servi par monsieur. Juste pour revenir à la police municipale, j'ai eu l'occasion de discuter comme ça avec les trois équipages. Et est-ce que vous êtes au courant qu'il y a une charte dont je vais rentrer dans le courant
C'est pour ça que j'aime le noter aussi sur la nécessité de former. Au moment où on se parle, je ne peux pas vous dire s'il y a des choses qui ont été engagées ou pas. Mais alors, en plus, on est assez. À Lyon, on est plutôt. Notre police municipale est réputée pour être plutôt formée, c'est-à-dire bien formée, sur tout un tas de sujets. On est souvent même utilisé en exemple par d'autres polices municipales, parce qu'on est producteur de beaucoup de formations en interne. Donc, mais si celle-là manque, il faut qu'on puisse la... Exactement, il faut qu'on la fasse aussi.
Non, mais c'est vrai que dans l'ensemble,
Oui, mais ça doit dépendre aussi de la personne qui appelle au téléphone, comment elle s'exprime. Ils sont obligés d'intervenir quand on les appelle.
Oui, mais c'est...
Après, il faut faire des preuves de discernement et puis...
Absolument. C'est... Absolument, tout à fait. Et dans ces cas-là, essayer de trouver une solution...
Si vous prenez pendant le confinement, en étant dehors, on était confinés dehors. Les problèmes que j'ai eus, c'était avec la police nationale. Le policier qui me disait, il faut rester chez vous. Je dis, oui, mais moi, je suis dehors. Oui, il faut rester chez vous. Et je suis dehors. Donc, ça a été...
Oui, vous avez été confronté à ça.
Un blanc total. Quoi. J'ai failli prendre une amende pour ça. Et je me suis dit, je me dégourdis les jambes, je suis à 30 mètres dehors aux gens. Si vous voulez venir, je lui dis, venez à la maison, mais en juin, je ne peux pas vous offrir de café. Mais... il me dit, justement, si vous restez chez vous, qu'est-ce que vous faites dehors ?
Oui, c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Tu leur dis, je suis dehors, ils ne comprennent pas.
C'est vrai que les premiers confinements, il y a quand même pas mal d'amendes qui sont tombées.
Oui,
ça a été.
Ça avait d'ailleurs été pas mal ça a été présenté dans les médias.
Ça a été rectifié, ça a été.
Heureusement quand même. Alors bien noté en tout cas sur ce point-là aussi important, tout à fait.
Besoin plus fondamental, j'ai eu quelques soucis pendant la période de fête où beaucoup d'accueils de jour étaient fermés, les bains douches étaient fermés, donc vraiment un problème de coordination à ce niveau-là et quasiment impossible de pouvoir prendre une douche pendant une semaine parce que tout le monde ferme en même temps pour prendre des congés. Ce qui est un problème récurrent sur toute l'année aussi, parce que le week-end, on n'a pas d'accueil.
Les jours fériés.
Les jours fériés, et ainsi de suite. Donc il y a des périodes dans l'année où apparemment, on n'a pas besoin de se laver. Donc c'est plus fondamental.
Je le formulerai dans le sens
manger.
Dans le sens inverse, en disant on a une question sur la continuité du service public à se poser.
Exactement. Donc il y a vraiment un souci un peu de coordination là-dessus. Et puis, j'imagine bien que le week-end, c'est pas... Tout le monde ne veut pas travailler le week-end. Mais... Les besoins fondamentaux. Alors, manger le week-end, il y a beaucoup de... Justement...
Donc, tu n'as pas de faim, Lyon, ça, c'est...
Oui, non, c'est... Oui, il y a beaucoup de maraudes, notamment tous les religieux de tous bords, ils distribuent beaucoup de nourriture le week-end.
Il y a encore beaucoup de magasins où ils jettent et on peut récupérer.
Mais c'est vrai qu'en dehors de ça...
Affolant. Et encore, les gens qui récupèrent, ils récupèrent pas tout. Quand on voit ce qui part malheureusement à la poubelle, alors après, il y a toutes les normes hygiène, etc. Mais c'est en amont que le travail devrait être fait. C'est-à-dire qu'une denrée, on sait que dans deux jours, elle va être... on déborde un peu, mais c'est à ce niveau-là. C'est pas attendre que ce soit...
Alors, il y a...
Juste, monsieur, pardon. Donc, les bains-douches étaient fermés. Vous avez
et notamment, la plupart des accueils de Notre-Dame des Sans-Abri, notamment.
Ah oui.
Qui sont les principaux accueils de jour sur Lyon.
Donc là pour les accueils du foyer Notre-Dame des Sans-Abri, c'est pendant les périodes de vacances, hein, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Nous,
pas pendant
entre
le week-end.
Noël et le jour de l'an. Bah, le week-end, non. Ils sont fermés de toute façon.
Ils sont fermés le week-end.
Oui, ils sont fermés.
Bah, toutes les entrées, là,
de toute manière, bah, oui, il n'y a pas d'accueil le week-end. Hein.
Les week-ends, les jours fériés.
Non, non, il n'y en a pas.
Il n'y a rien.
Alors, par contre, il existait, ou il existe encore, ce camping-car de douche.
Il est introuvable.
Voilà.
Tu téléphones, là, ils ne répondent pas.
Voilà, le problème, c'est que il existe peut-être un début de solution par rapport à ce camping-car qui fait douche. Et il n'y a aucun appui. Il n'y a aucun appui.
Je l'ai jamais vu. Moi, en 6 ans de rue, je l'ai jamais vu.
Deux fois sur la place de Carnot, devant la gare en plein été, il faisait quelques circuits vers Courvivier-Merle. Où je les ai croisés, ils stationnaient, puis ils faisaient des petits points comme ça, relais, mais ils n'avaient rien de très, enfin, ils avaient, il n'y avait pas, c'était pas vraiment suivi leur circuit, c'était un peu
au hasard.
Donc, et c'est vraiment une démarche qui était bien, et au final, moi j'ai trouvé que c'était dommage qu'il n'y ait aucun appui à leur égard, en fait. Eux, ils sont vraiment isolés.
Alors, si on parle du même dispositif, le Shower Bus ou un truc genre, on les a soutenus ces dernières années, pour qu'ils puissent développer leurs interventions. Alors après, sont-elles bien placées au bon endroit, aux bonnes heures, etc.
C'est-à-dire qu'effectivement, s'ils n'ont pas un itinéraire prévu, c'est connu de tout le monde.
Je leur avais demandé.
Si un jour ils sont là, la semaine d'après, ils sont plus.
Voilà, ils sont
plus. Théoriquement, en appelant le SAMU, ils devraient pouvoir nous dire où ils sont, mais le SAMU ne sait pas.
Le problème, il est là, c'est qu'il y a.
Bah oui, déjà,
le SAMU, à mon avis, ils n'ont pas ce genre d'infos.
Non, non, déjà, il faut qu'ils décrochent.
Le SAMU, vous voulez dire ?
Vous verrez sur le site des streets, il y a effectivement le SAMU social ne répond plus. Parce qu'effectivement, il y a trois personnes, je crois, en permanence ce soir pour répondre à plus de 600 appels. Humainement, techniquement, déjà, je me pose la question, mais humainement, tu ne peux pas répondre à 3 à 600 appels. Alors, c'est peut-être pas 600 personnes, mais c'est des appels qui se répètent, etc. Je voulais aussi faire un petit point là, par rapport aussi à l'hygiène. C'est vrai qu'à Lyon, moi j'avais constaté que par rapport aux sanitaires, alors c'est vrai, il y a des sanitaires un peu à droite à gauche, je trouve qu'il y en a pas assez. Et puis je trouve que les cycles sont super trop longs. C'est-à-dire qu'entre le passage d'une personne.
Le nettoyage.
Le nettoyage.
Il y en a, il n'y a pas d'eau.
Oui, non, mais des fois, le nettoyage, il se fait vite parce que le
truc. Non, il n'y a pas d'eau du tout. Pas... À Jean Massé, il n'y a pas d'eau. Ouais. C'est gratuit, tu ouvres, mais il n'y a pas une goutte d'eau. Il n'y a pas d'eau.
On parle des toilettes
automatiques. Publiques,
Les deux cours.
Les deux cours,
oui. C'est deux cours. Ouais. Là, après, c'est la gestion de deux cours. C'est le technicien n'est pas possible.
Mais il n'y a pas d'eau.
Alors, s'il y a un problème de raccordement à l'eau sur Jean Massé, il faut le signaler. Je te laisse noter en offre.
Et après,
malheureusement, sur la longueur des cycles.
Oui, ça,
C'est l'objet, qui est tel qu'il a été conçu, qui est comme ça. Je ne sais pas s'il y a moyen de les raccourcir. Plus généralement sur la question d'hygiène, il y a la douche de l'Esser dont on parlait tout à l'heure. Il y a la laverie qui va être installée. Ça, pour moi, ça c'est vraiment.
C'est top.
Ça c'est vraiment important. L'hygiène, ça se. C'est un sujet global.
C'est global.
On a, nous, toujours prévu, dans nos investissements sur cette mandature, d'établir un autre site pour les bains-douches.
C'était une des questions, effectivement.
Par contre, on n'a pas encore identifié le lieu parce que on voudrait... Alors, il y a le site historique dans les pentes de la Croix-Rousse, mais en fait, il n'est pas...
Il n'est pas adapté.
Il est pas adapté parce que ce n'est pas un endroit qui est nécessairement très accessible.
Tout à fait.
En plus, pour les gens qui habitent autour,
ça n'a
pas d'utilité. Donc, c'est vrai que quand on voit comment la ville s'est aménagée ces dernières années et puis comment nous, on prévoit de l'aménager, il serait plus logique de trouver un lieu dans le 3e arrondissement, peut-être autour de la Part-Dieu, parce que c'est un endroit central.
Tout à fait.
On sait qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à Lyon. Ils sont sans abri, qui arrivent par la gare de la Part-Dieu. Bon, de savoir qu'à quelques centaines de mètres, il y a la possibilité de se poser, de se laver, éventuellement même de laver ses affaires. C'est une façon aussi d'être à la fois dans l'hygiène, mais aussi dans le repos. Mais trouver un endroit pour l'installer, pour l'instant, on ne l'a pas encore. On n'a pas pu le faire. La deuxième chose, c'est par rapport à la question que vous posiez sur le nombre de toilettes, on a un plan toilette, donc on va petit à petit les déployer. Et effectivement, on prévoit d'en installer beaucoup plus dans la ville, parce que on sait qu'il y a un grand déficit, quoi.
Ouais, tout à fait.
Et on avait fait un test, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais on avait installé des toilettes
pour femmes.
Exactement. Sur les quais, pas loin d'ici, là, sur la place.
Devant la gare Saint-Paul.
Oui, il y en avait même aussi, je crois, par Blandan, par exemple.
Exactement. Ouais. Et il y avait quatre types de toilettes. Il y avait des toilettes pour enfants, des toilettes
pour dames.
Alors pour dames, effectivement, et des urinoirs pour dames, très important.
C'est
très important parce que c'est historiquement, les urinoirs, c'est plutôt masculin. Et comme si les femmes n'avaient pas envie de faire pipi de temps en temps. Bien sûr que si, donc il faut aussi des urinoirs pour tous les sexes. Des toilettes aussi accessibles aux personnes à mobilité réduite, personnes handicapées, ça c'est important, aussi qu'il y en a. Effectivement, le modèle de co, il est pour ça plutôt pas mal, parce qu'il est grand.
Oui, il est bien conçu.
Voilà. Et puis, je vous dis, j'oublie un truc, il y en avait une quatrième sorte, mais je ne sais pas, c'est simplement les urinoirs masculins. Mais... Voilà, donc on avait aussi essayé de tester de nouveaux dispositifs, mais on va déployer beaucoup plus de toilettes publiques.
Parce que historiquement, il y avait certains toilettes comme ça qui disposaient des deux. C'est-à-dire que vous aviez la toilette normale, on va dire, puis derrière, il y avait des urinoirs, en fait. Mais a priori, ça a été supprimé, ces urinoirs, une histoire sûrement de propreté, etc. Mais ça facilite, c'est-à-dire que la personne qui a juste besoin d'uriner, qu'elle ne rentre pas dans un cycle, effectivement.
Honnête avec vous, je ne sais pas quels sont les modèles qui vont être choisis.
éventuellement, c'est bien de le prévoir, parce qu'effectivement, si on a la possibilité, quand on est dehors, de faire ses besoins plus facilement, sans que solution, parce qu'effectivement, la solution, après, on trouve des pipites partout.
Pour les personnes qui sont à la rue, pour une personne
qui
est dehors, qui est pressée, ça l'arrange d'avoir toilette devant lui.
Mais là, comme on a pris le prisme, on est effectivement...
Et il y en a, c'est 20 centimes, je crois, bien 50 centimes.
C'est évident. C'était les anciens.
À Grand Clément, je crois que c'est 20 centimes.
Les toilettes sont payantes à Villeurbanne.
D'accord.
Ouais. C'est encore les anciens modèles, alors.
Ouais. Okay. Non, il n'y a pas de toilettes gratuites.
J'avais eu l'occasion de
les utiliser à Villeurbanne.
La Confluence qui était payante aussi.
Vers
les quais, vers la capitale,
je ne sais plus.
Alors, ça fait peut-être partie du centre commercial.
Est-ce que la ville urbaine, c'est payant?
Oui, c'est, parce que si c'est payant, c'est payant. C'est payant, c'est privé. Parce que
c'est les toilettes du marché, ça.
Voilà, donc ça doit être un but privé. C'est pour ça.
C'est les gens du marché qui.
Ça leur appartient.
C'est dans le marché qu'il y a les.
Donc, c'est un vrai. Mais c'est un vrai sujet, effectivement, la question d'hygiène.
Quand on liste les points, c'est effectivement les points qu'on a vus, c'est effectivement l'accès au droit, c'est essentiel. Le droit de pouvoir utiliser l'espace public pour se reposer. Alors, après, moi, je n'ai pas fait beaucoup d'analyses sur les systèmes anti-SDF. Je ne sais pas si ça s'est développé ou pas, parce que toi, tu as.
Je fais attention en ce moment, il y en a quelques-uns encore, mais il y en a à Lyon, ça va encore. Non, ça va.
Parce que, voilà, pour tout vous dire, au début du mandat, alors qu'en plus qu'on venait de signer la charte, les services ont laissé passer, les services parce que c'était une procédure administrative, donc c'est pas le maire qui regarde chaque dossier. On laissait passer l'implantation d'un dispositif sur une copropriété privée qui était effectivement de nature à être considéré comme un dispositif anti-SDF, on va dire, même si c'est pas comme ça que c'est présenté.
C'est un bénissement de la résidence.
Voilà, exactement. Et en fait, c'était ça. Une fois que c'est autorisé, que c'est signé, vous pouvez pas revenir dessus. Mais on a fait passer le message à plein d'un service. C'est terminé, c'est niette. Je ne veux plus voir ce genre de dispositif.
Il n'y a pas de dispositif récent. Il y a encore des bancs avec des arceaux, etc. Mais
pour moi, c'est la question du droit au répit est vraiment fondamentale. Ne serait-ce que pour pouvoir engager des tas d'autres droits, en fait, exercer des tas d'autres droits, il faut pouvoir se poser.
Donc là, on a vu les points qu'on voulait voir, l'éclairage sur les trois points, parce qu'effectivement, après tout listé en détail, etc., on aura peut-être l'occasion de se revoir.
Et vous avez raison, Enfin, vous avez raison de commencer par la question finalement fondamentale, je dirais, la domiciliation, parce qu'elle ouvre sur un peu tous les champs.
Bien sûr.
Oui.
Voilà. Et puis sur la question aussi de la formation des différents professionnels, c'est-à-dire de la connaissance de cette charte, en fait, de l'existence de cette charte.
Il y a un droit dont on n'a pas parlé.
Oui.
C'est celui de voter.
Oui.
Parce que c'est aussi important.
Tout à fait. Il n'y
a pas de domiciliation, il n'y a pas d'inscription.
Oui, mais avec la domiciliation,
c'est tout ce qui est administratif qui est.
Tout dépend.
Mais je pense que c'est aussi important.
Ils ne peuvent rien faire.
Ben, ce que dit cette charte qui est fondamentale, c'est qu'une personne sans abri est un citoyen ou une citoyenne.
Tout à fait.
Et elle doit pouvoir exercer tous ses droits de la même façon que, qu'une autre personne. Et je trouve que le droit de vote mériterait aussi d'être dans cette, présentation.
Mais pour moi, c'est un...
Oui, ça va avec, mais je pense que c'est important.
Mais effectivement, l'affinité, c'est que la personne... je pense que c'est la personne, à partir du moment où on la remet dans ses droits, qu'elle peut se domicilier, qu'elle peut refaire ses démarches, qu'elle peut éventuellement faire des dossiers pour avoir un logement, après derrière, elle sera plus enclin à aller voter.
Je ne suis pas en campagne électorale.
Non.
Mais je pense que c'est vraiment important que les gens
puissent
aussi s'exprimer au travers d'un bulletin de vote. Ça passe pas tous les jours.
Bulletin de vote et l'assurance maladie.
Alors,
tout ce qui est important, pour s'en sortir.
Il y avait également un petit éclairage, mais c'est le cas de le dire. Mais ça, je crois que j'ai vu aux informations
mais
que ça a été rectifié par la mairie de Lyon pour l'éclairage
public.
Voilà. Oui. Parce que la Fondation Abbé Pierre avait été alertée par le SAMU social qu'il y avait un nombre important d'agressions de femmes.
C'est intéressant que vous me le fassiez remonter, parce que figurez-vous qu'on a été à la recherche d'informations pour essayer d'évaluer les conséquences de cette extinction nocturne dans certains quartiers.
Voilà.
On a été auprès du SAMU, SAMU social, je ne sais pas justement si on a fait pompiers, etc. Enfin,
c'est le SAMU social qui a alerté la Fondation Abbé Pierre.
Mais on n'avait pas eu cette info.
Ouais.
Comme quoi, il y avait une plus grande
récurrence. Si vous voulez mettre un rapport avec FAP à Lyon, ils ont.
Ok. Ouais,
ils nous ont bien demandé de bien
remonter. Chose à aller chercher. Et en fait, on a pris la décision de mettre un terme à ce qui était une expérimentation, principalement parce que parmi les retours qu'on a eus, on en a eu des pompiers qui nous ont dit que pour certaines interventions, c'était beaucoup plus compliqué d'arriver dans le noir.
Bien sûr.
Voilà, même s'ils ont un camion avec des phares, gyrophares, etc.
Pour arriver
en intervention, ça leur faisait éventuellement perdre du temps et un peu d'efficacité. Et bon,
on sait très bien que les pompiers aussi, malheureusement, par moment, ils sont attendus sur des interventions, ils sont caissés. Donc je comprends que quand ils arrivent.
Ils ont peur.
C'est la municipalité.
Alors il y a ça aussi, bien sûr. Voilà. Mais c'était sur des choses assez pointues, assez précises qui nous ont
appelés. Après, techniquement, c'est vrai qu'ils travaillent dans le noir, c'est pas. Tu rebranches un tuyau dans le noir.
On n'avait pas eu justement d'informations sur un plus haut niveau d'agression ou de délinquance. En tout cas, quand on interrogeait les services de police, ils ne nous faisaient pas remonter plus de situations qu'avant le début de l'expérimentation. Voilà.
La personne qui a agressé nécessairement dans la rue, je ne suis pas sûr qu'après...
Elle ne va pas porter plainte.
Voilà.
C'est pour ça que je vous dis que c'est intéressant que vous nous fassiez remonter ça.
En général, la démarche,
c'est une information qui émane du service social.
C'est que les personnes qui se font malheureusement agressé, en général, c'est pas la police qui s'appelle, ils filent directement à l'hôpital. En fait, ils font même pas 17, ils vont la tête en sang et puis tant pis.
Certains même pas, d'ailleurs.
Malheureusement, c'est triste, mais la police, c'est rare, très rare.
On en voit arriver. Alors, c'est en deuxième. Pourquoi t'es pas à l'hôpital? C'est bon, ça va. On est à l'hôpital.
Là-dessus, c'est vrai qu'il y a une espèce de court-circuit qui se fait.
Ça, c'est un aparté, mais à part la mairie de Lyon, par exemple, c'est toutes les boutiques qui sont éclairées les nuits. Il n'y a pas de moyen de...
De les éteindre. si vous me trouvez les interrupteurs, je veux bien les éteindre.
Ah bah, je sais qu'il y a des gens qui viennent la ville. Mais tu vois.
En fait, on est sur un domaine privé.
Ouais, voilà, c'est ça.
Et donc, comme je pourrais pas rentrer chez les gens,
c'est important que ce soit respecté.
Il y a des gens qui sont
qui. Nous,
on a mis en place, on est en même temps que la. Que le plan de sobriété de la ville qui nous avait conduit d'ailleurs à éteindre donc, la nuit un certain nombre de quartiers, on avait lancé une démarche d'encouragement pour les commerçants, enfin les professionnels, pour aussi éteindre. Donc certains ont dit oui tout de suite, et voilà, avec un intérêt évident, c'est que on fait des économies sur la facture, quoi.
Déjà pour eux, ils font des économies sur la facture.
Puis honnêtement. À 3h du matin.
Oui, non.
C'est exactement c'est ça.
À 3h du matin, vous n'avez pas besoin d'avoir une boutique, tu vois, de lingerie, une banque.
Exactement. C'est pour ça que
ou une agence immobilière d'allumer. Ça n'a pas de sens. Bon, vous n'allez pas chercher votre appartement, votre, je sais pas, votre slip ou je sais pas quoi en plein cas de nuit.
Tu mets une minute. On coupe à minuit.
Exactement. Bon, certains ont joué le jeu, d'autres n'ont pas voulu s'y mettre. Il faut que ça passe un peu dans les mœurs.
Je crois que c'est la bibliothèque municipale de la Part-Dieu-la-Grande qui le fait.
Qui éteint ?
Ouais, à minuit.
Ah non, mais on éteint, nous, on éteint le bâtiment. De toute façon, on a revu. Alors, il y a l'extinction nocturne là des rues, ça c'était spécial, mais il y a tout l'éclairage des bâtiments publics, l'hôtel de ville, l'opéra,
les parcs.
Les
parcs aussi.
Et des parcs notamment, tout cet éclairage qui n'est pas là pour finalement. Éclairer, vous permettre de vous déplacer dans la nuit. C'est plus pour embellir en fait la ville. Ouais, voilà. Ça, on l'a réduit de manière à faire des économies d'énergie. Ouais. Et ça, par contre, ça, on va pas. Enfin, cette réduction, on revient pas dessus parce que, notamment les quatre premiers soirs de la semaine. Enfin, c'est de mémoire, ça va être le dimanche soir, le lundi soir, le mardi soir et le mercredi soir. C'est ça. Bon, voilà. A besoin de tout éclairer.
Effectivement, il y a éclairage, éclairer des rues. Après, quand c'est. J'ai l'exemple d'éclairer des églises la nuit, etc. Par exemple, rue Néret, pas loin, il y a une église qui est quasiment éclairée toute la nuit. En plus, il y a une église qui est réformée, enfin qui est désaffectée. C'est rue Néret.
Ouais. Oui, je vois très bien de l'église vous parler, mais elle est éclairée la nuit.
Éclairée. Moi, je dormais là, donc je le voyais.
Alors, ça.
Alors, je sais, je crois qu'elle doit se couper vers minuit, une heure. Minuit, une heure. Mais.
Ah oui, alors minuit, une heure.
Là, je trouvais qu'on éclaire un bâtiment, alors c'est juste pour les yeux. Mais en fait, c'est important parce que l'église, elle ne sert plus. Elle est...
Ouais. Oui, elle est désacralisée. Ouais. Ouais. Mais vous savez, moi, quand j'ai pris la décision de réduire l'éclairage d'un certain nombre de bâtiments publics, beaucoup de gens qui se sont plaints en disant alors le maire, il nous met lion dans le noir, nous, on veut voir la ville comme elle est belle, etc. Oui, il y a un moment, il y a un
équilibre
à trouver.
Tu dors la nuit,
c'est ça.
Tu dors la nuit. Ah, c'est vrai que
peut-être des noctambules qui aiment.
C'est vrai que moi je parle pour moi, mais pas connu la nuit. Quand on déambule parce qu'on a rien d'autre à faire, c'est beau, c'est éclairé de partout, c'est beau. On se dit ça c'est joli là. Après la plupart, on va dire le citoyen lambda il dort.
Oui, mais pas toute la nuit, jusqu'à une certaine heure.
C'est quand même des grosses consommations électriques et donc des grosses factures.
J'avais l'exemple.
Finalement, bon, pas grand-chose, hein. Faut être clair. Donc.
Ah, c'est vrai que pendant le confinement, tout le soir, j'étais allongé, je regardais l'église, je regardais les pigeons, les machins, je m'amusais à les compter, ça occupait. Après, maintenant, je me disais, mais c'est aberrant.
Mais quand même, tu es en sécurité. En voyant toute cette lumière, tu es en sécurité.
Oui, mais c'est éclairé le bâtiment, en fait. Après, il y avait l'éclairage dans la rue. À l'époque, donc, je parle de ça il y a 2 ans.
On a aussi engagé un plan de transformation de l'éclairage dans la rue. Parce que si on avait besoin de faire des économies d'énergie, c'est d'abord parce qu'on avait vous avez peut-être suivi ça dans les infos, mais on avait un problème de production d'électricité en France. Et donc, le président de la République lui-même nous a demandé de faire des économies. Et après, on a aussi beaucoup d'ampoules, nous, qui sont encore des vieilles ampoules, qu'il faut qu'on change, qu'on passe en technologie LED, pour que ça consomme moins, etc. Mais en fait, c'est beaucoup de boulot. On a les équipes qui le font.
Vous allez en faire des ampoules.
Ça en fait, oui. Je ne sais plus combien on a de points lumineux, mais on en a plusieurs dizaines de milliers dans la ville. Donc, ça en fait beaucoup. Est-ce qu'on a fait le tour des sujets que vous vouliez aborder?
Les sujets qu'on a abordés.
Non, c'est bon, parfait.